IDFM Radio, merci de nous rejoindre maintenant pour l'émission spéciale consacrée à la vie de château. Nous sommes au château de la Roche-Guyon qui vous propose justement cette exposition jusqu'au 1er novembre. Nous sommes avec Emmanuel Morin, le nouveau directeur de ce site. Bonjour Emmanuel.
Bonjour, bonjour.
Merci de nous accueillir. Où exactement? Il y a le potager qui est juste à côté de nous. Et là, nous sommes où, plus précisément, en face d'une magnifique porte?
On est exactement devant les grandes écuries du château qui datent du XVIIIe siècle. Et en fait, quand on est au pied des écuries, on est face à la forteresse médiévale et au corps de logis. C'est une très jolie petite bicoque absolument incroyable.
On rappelle dans les grandes lignes l'histoire de ce château?
Et ben, c'est un château qui est créé au Moyen-Âge. Donc la partie la plus ancienne est celle qui se visite au niveau de la falaise. Donc le donjon impulsé par le roi Philippe Auguste en réponse à Château Gaillard par Richard Cœur de Lion. Et puis donc il y a un château médiéval qui va se construire à la base de la falaise. Mais aujourd'hui on ne le voit plus parce qu'en fait il a été un peu absorbé, il a été phagocyté par le temps. Et c'est le château 18e aujourd'hui qu'on voit, mais quand on se balade dans le château 18e, on voit les traces du Moyen-Âge.
Ils ont utilisé la roche finalement pour construire, confectionner ce château?
Exactement, ils ont taillé dedans, ils ont utilisé le calcaire, ils ont fait venir du calcaire et des pierres avec la Seine, et en fait on a creusé, on a construit devant, et en fait ça vient contrebuter le bâtiment au pied de la Seine.
On va rencontrer les artistes d'ici quelques minutes, notamment avec Yoshi, et vous avez intégré aussi du mobilier. C'est vrai que les pièces de ce château étaient quasi vides, il y avait quand même quelques tableaux, mais pas forcément d'objets, de meubles, de fauteuils.
J'ai eu la sensation, peut-être la première fois que je l'ai visité, quand j'ai candidaté pour être directeur de cette belle maison, une sensation un peu de vide, un peu comme on visite une maison quand on veut l'acheter avec l'agent immobilier. Alors il y avait environ une vingtaine d'objets, un peu de sièges, voilà. Et puis depuis que je suis arrivé, on est aujourd'hui presque à 60-70 meubles, parce qu'on a des mécènes qui sont engagés et qui croient au projet de remeublement de ce lieu. Le mobilier national va rentrer dans la boucle dans les mois à venir. Et puis quand on n'a pas les bons éléments, c'est les artistes qui s'y collent.
Nous sommes aussi avec Mathilde. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Présentez-nous un petit peu Mathilde, qui fait partie de votre équipe et qui s'est attelée sur quoi plus exactement?
Et alors j'ai la chance, parce que je suis un garçon qui a quelques années, d'avoir rencontré plein d'artistes dans mon parcours. Et puis j'ai eu une rencontre un peu déterminante avec Mathilde Arnaud il y a 6 ans, qui a été pleine d'énergie, mais plus pleine d'énergie, pleine de contraste, avec l'envie de servir, d'être en dialogue et de me nourrir même en tant que directeur artistique. Et quand j'ai pris mes fonctions ici, je me suis dit clairement, Mathilde, j'ai envie qu'elle soit avec moi à mes côtés. Et d'ailleurs, elle a été plus qu'à mes côtés, puisqu'elle s'est emparée des sujets que je lui proposais pour servir le monument et surtout pour toucher le public. Et ça, ce qui est fondamental dans l'œuvre de Mathilde Arnaud, c'est vraiment sa capacité à toucher le public, ce qui pour moi est fondamental, parce que moi, je ne fais pas tout ça pour moi, je le fais pour le public.
Vous êtes illustratrice depuis combien d'années, Mathilde?
Alors mon travail d'illustration, il est assez récent, il a 5-6 ans, mais sinon je suis graphiste historiquement depuis une quinzaine d'années déjà maintenant. Et c'est vrai que moi, mon cœur de métier, c'est vraiment d'imaginer des supports imprimés, des objets de lecture qui proposent justement des expériences un petit peu alternatives, immersives, participatives. Alors j'ai tout un travail en édition, en littérature jeunesse, mais c'est toujours un plaisir quand on est invité par des lieux chargés d'histoire, donc comme le château de la Roche-Guyon, pour venir valoriser justement toute cette histoire millénaire. Donc c'est quand même un sacré chantier déjà à décortiquer, pour mettre tout à plat et voir comment on peut réussir, comme le disait Emmanuel, à toucher le public. Et c'est vrai que ces supports de visite, pour moi, ils sont très importants. C'est la première interface qu'on a déjà avec le lieu, avant même de commencer la visite. C'est également la trace qu'on va ramener chez nous après notre visite.
C'est un petit souvenir.
Exactement. Et donc c'est aussi comme ça qu'ont été pensés ces objets. Et c'est vrai que initialement, j'étais invitée pour imaginer donc le support de visite jeunesse, enfin jeune public. Et c'est vrai qu'on pense pas forcément suffisamment aux enfants et dans toutes les tranches d'âge qu'ils représentent. C'est donc imaginer un support qui parle autant aux petits qu'à nos préadolescents, voire adolescents, pour qui ce genre de visite peut être un petit peu compliqué. Et j'ai pris énormément de plaisir à imaginer un objet graphique qui puisse toucher toute tranche d'âge.
Merci Mathilde. La vie de château, donc, c'est jusqu'au 1er novembre. Combien d'artistes vous avez réunis pour cette occasion?
Il y a 10 artistes qui ont été réunis pour créer ce premier chapitre de la vie de château, puisque cette invitation, elle est pour cet été. Mais en fait, l'idée, c'est de revenir régulièrement, parce que ce château, il est en mouvement et il va être en mouvement tout au long de l'année. Donc, il va y avoir le reste, puis il y aura le chapitre 2, puis le chapitre 3, et puis il y aura plein d'autres choses à découvrir.
Des plasticiens, des sculpteurs,
Sculpteurs, céramistes, designers, tous les métiers d'art aussi. Il y aura sans doute aussi de la gourmandise, des projets autour des odeurs aussi qui vont arriver. Donc l'idée, c'est d'être dans une sensation, de vivre le château comme une boîte de Pandore où on peut retrouver tous nos sens, le son, le toucher, et de vivre ça avec beaucoup de joie.
Merci encore Emmanuel Morin, directeur du château de La Roche-Guyon, sur la commune de La Roche-Guyon. À très vite sur les réseaux sociaux, bien évidemment, il y a un site aussi du château. Et puis on va découvrir dans un instant une première artiste, Camille.
C'est exactement ça, Camille Chastan.
Merci. Merci.
Merci beaucoup.
Le château de La Roche-Guyon accueille jusqu'au 1er novembre l'événement La Vie de Château avec de nombreux artistes qu'on va essayer de vous faire découvrir sur la petite demi-heure que nous avons sur IDFM Radio. Nous sommes avec Camille. Bonjour Camille.
Bonjour.
Merci de nous accueillir un peu ici dans ton espace. Nous sommes dans ton salon. Et donc qu'est-ce qu'on va découvrir plus exactement comme œuvre ?
Donc, dans la salle à manger, c'est plutôt des céramiques en faïence qui sont émaillées avec une installation de table un peu inhabituelle ou un peu féerique.
Avec des vases très particuliers. En fait, tous ces éléments que tu as réalisés résonnent aussi avec le château. C'est par exemple des objets ou des inscriptions qu'on va pouvoir découvrir un petit peu sur les quatre coins du château.
Oui, c'est ça, c'est plutôt des motifs aussi qu'on retrouve, les nœuds, les feuilles, les fleurs, les mains, les animaux, tout ça, c'était déjà présent dans le château. Et mais c'est comme si on les voyait plus vraiment. Donc là, c'est aussi peut-être une invitation à faire un peu plus attention aux détails ou en tout cas relire les espaces avec des nouvelles lunettes.
Il y a des coquillages aussi. On est un peu sur la table d'Alice au Pays des Merveilles. En tout cas, un monde imaginaire très coloré avec aussi de la végétation importante.
Oui, bah la végétation, ça rajoute un peu de vie, de mouvement. Et en fait, c'est aussi que ces vases, on peut pas mettre d'eau dedans parce qu'ils sont percés. Enfin, ça rajoute aussi l'eau, c'est devenu des perles. Les vases, on peut pas mettre d'eau dedans, mais il y a quand même ces fleurs qui en sortent. Donc oui, bah ça rajoute au côté un peu merveilleux.
On va se téléporter tout de suite dans une autre pièce où justement il y a aussi d'autres éléments de Camille et on va découvrir aussi une ambiance sonore assez particulière puisqu'il y a certaines pièces du château qui ont été mises en son par Julia et Simon qui sont avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Et vous travaillez pour qui ?
Bonjour, on est l'atelier Blip Bloop. Je suis Blip et...
Et Bloop. Bloop, ouais, c'est ça.
Et ça existe depuis
Alors, on a profité de cette création-là pour le lancer officiellement, mais ça fait un peu plus de 3 ans qu'on travaille ensemble.
Donc là, on va au cabinet chinois. Nous voilà dans cette nouvelle pièce du château, toujours avec Camille, avec Simon et avec Julia. Donc là, on va entendre des éléments sonores d'ici quelques minutes, même là, actuellement, avec des oiseaux. Et puis, on retrouve aussi quelques œuvres de Camille tout au long du parcours sur cet étage.
En fait, l'intérêt aussi de toutes ces propositions artistiques, c'est de un peu désacraliser l'espace vide du château qui serait un peu, on ne peut pas toucher, hyper précieux et tout. Alors qu'en fait, les gens, ils vivaient ici, quoi. Il y avait un truc un peu... Il y avait probablement des chiens qui couraient, il y avait du bruit, des bruits de chevaux, ils avaient les chaussures sales, ils marchaient partout... Donc je pense qu'il y avait, je pense qu'ils étaient un peu, légers avec leur environnement. Donc c'est pas mal de retrouver ça aussi.
Là on entend des cloches.
Absolument.
Merci en tout cas d'être avec nous. Donc comme elle l'a si bien expliqué Camille, c'est effectivement occuper cet espace vide et lui donner peut-être un peu plus d'âme et lui apporter pour vous deux en tout cas des éléments sonores, toujours bien évidemment aussi en résonance avec le château.
Oui, c'est ça. L'idée, c'est d'aller chercher pour chaque pièce qu'on a mise en son sa singularité, essayer de faire ressortir quelque chose de son identité, de faire vivre pas que l'espace tel qu'il est vécu, mais aussi les murs, les meubles. Donc ici, dans le cabinet chinois, il y a une tapisserie d'époque avec des motifs floraux, des animaux, des petits oiseaux.
C'est un ajout, mais l'idée, c'est quand même d'imaginer que tout ça presque suinte naturellement du château. C'est pas, on vient pas rajouter quelque chose, bon, même si concrètement c'est ce qu'on a fait, mais on essaye de donner la sensation que ça émane tout seul du château. Il y a vraiment ce truc d'aller chercher ces petits sons qui traînent, qui ont été absorbés par les murs, par les meubles, par tout ça. Donc oui, alors on entend le coq parce qu'il y a un coq, il y a une dimension assez figurative, assez immédiate. C'est, d'une certaine façon, c'est un peu le même travail que Camille, mais il y a des petits sons qu'on vient d'entendre, par exemple un petit truc bloup bloup qui vient teinter.
Bah, goup, c'est votre
fois deux.
C'est vous.
C'est Julia au carré.
Elle a fait ça avec sa bouche.
Ouais. Et ça vient teinter un peu magiquement, onirique. Et en plus, juste rajoute ça parce que c'était assez agréable dans cette pièce-là particulièrement. Parce qu'on est venu plusieurs, beaucoup de fois, 7 ou 8 fois. Et les dernières fois, les pièces de Camille étaient déjà installées. Donc il y avait vraiment ce truc de créer avec ces éléments supplémentaires qui venaient de donner. Enfin, nous, on a adoré vraiment ce lieu.
Donc vous, les pièces effectivement de Camille vous ont aidé en plus à créer ces univers sonores.
Ouais, il y a un truc comme ça d'une ambiance.
Elle dit non.
Si, forcément. C'est-à-dire ça crée quelque chose, quoi. Ça amène un plus et ça donne une dimension différente qui fait que forcément ça nous a influencé. Je suis pas forcément capable de le quantifier, mais il y a quelque chose qui a. voilà, qui nous a touchés.
Eh bien, merci beaucoup à vous trois et bonne continuation.
Merci.
IDFM Radio, petite visite aujourd'hui du château de la Roche-Guyon et nous sommes avec des artistes qui exposent là jusqu'au 1er novembre dans le cadre de l'événement La Vie de Château. Bonjour à vous deux, présentez-vous.
Alors bonjour, enchantée, je suis Jaïna de l'atelier Baptiste et Jaïna, du coup.
Et pour ma part, c'est Baptiste.
Et vous vous connaissez depuis de nombreuses années ?
Alors tout à fait, on travaille ensemble depuis maintenant 2018 et notre histoire, elle va au-delà du travail, on va dire. Voilà, donc c'est une fusion et un travail vraiment à quatre mains.
Et cet atelier, qu'est-ce qu'il propose en règle générale ? Vous investissez souvent ce type de château ?
Alors, nous, le terme d'atelier, quand on l'a nommé pour notre duo, c'était vraiment cet amour du faire et donc du coup de l'espace atelier, parce qu'on a cette particularité également de produire un certain, enfin la majorité de nos pièces. Donc, on est de formation de designer, donc on a fait différentes écoles. Moi, j'ai fait pour ma part Olivier de Serres, design de produits, donc à Paris. Puis on s'est rencontrés à l'ESSAT de Reims. Donc là, on est sur une école plus art décoratif.
Oui, moi, j'ai un peu vadrouillé à droite à gauche parce que j'ai fait... je suis parti aussi en Suisse chez un maître verrier, Mathéo Gonnet, voilà, qui est en banlieue de Bâle. Et un peu de travail du bois aussi, etc. Et après, on s'est retrouvés après notre diplôme, en fait. Et on a très rapidement monté l'atelier. Et en fait, c'est l'atelier aussi, c'est un moyen d'expression et un laboratoire aussi de recherche à travers la matière. Et c'est ça qui nous intéresse beaucoup.
Vous créez souvent des fruits ou pas ? Non ? Ou là, c'est totalement inédit, c'est pour le château, nous sommes dans l'escalier. C'est pour ça qu'on entend aussi cette résonance. Et on va découvrir votre œuvre au pied des escaliers, avec d'un côté une pomme et de l'autre côté une poire, parce qu'il faut savoir qu'il y a un magnifique potager fruitier, verger, juste en face du château. Et d'ailleurs, il y a des pommiers et des poirières.
Tout à fait. Donc pour nous, c'était assez évident en fait de travailler autour de cette imagerie végétale et notamment du fruit, ce qui sort pas de notre univers parce qu'on aime rapporter un peu de gourmandise dans les pièces qu'on dessine. On dit gourmandise, il y a une espèce d'attraction dans l'idée où on a envie de les toucher, on a envie de, je dirais pas de les manger, mais voilà, c'est cette espèce de séduction.
À travers les textures, à travers les couleurs aussi, c'est quelque chose. Et puis les matières aussi, parce qu'effectivement, là, il y a essentiellement du grès et de la porcelaine. Mais il y a aussi des bourgeons comme ça, des perles de verre. On a fait souffler au centre verrier de Maisonthal, donc qui se situe dans les Vosges du Nord. Et ça, la notion de la perle, du globe, de la sphère, c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement dans les pièces qu'on réalise.
Ça donne envie d'être croqué finalement, voilà, un peu ça. Comme dans le célèbre conte et la maison d'Hansel et Gretel.
Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on parlait vraiment et c'est ce déploiement un petit peu de l'imagerie aussi du conte, ce fil conducteur lumineux et qu'on vient comme ça y ponctuer un petit peu une imagerie aussi un peu merveilleuse, un peu un courant littéraire notamment qui nous fascine aussi, c'est le réalisme magique, notamment à travers Gabriel García Márquez, enfin bon, toute cette littérature où le quotidien vient se mélanger à l'imaginaire et à la magie, et que voilà, c'est ce qu'on a également voulu représenter ici. Après, nous, nos références, elles vont également travailler autour notamment du naturel, de la poétique des éléments, donc d'où là je reviens aux fruits, aux végétales, et ce rapport avec l'extérieur et du coup cette présence du jardin au château de la Roche-Guyon a été assez évident pour nous qu'on devait aussi travailler sur cette thématique de bouture et de...
Oui, c'est ça, c'était l'idée de ramener du végétal dans le minéral et que les deux ne fassent qu'un en fait, une espèce de fusion comme ça. Moi j'aime bien parler pour les sculptures qui se trouvent dans les alcôves, donc du coup de part et d'autre de l'escalier jardin statuaire, c'est-à-dire des sculptures de plantes. Et les poires, notamment, elles peuvent évoquer la glaçure, c'est-à-dire l'émail qui recouvre les pièces en céramique. En céramique, ça peut évoquer un marbre, par exemple, les veinures d'un marbre. De l'autre côté des pommes, c'est un grès de Noron, donc c'est une argile qui vient de carrières normandes. Et là, on a quelque chose de plus tellurique, enfin, qui sera rapprocherait plus de la terre.
Et puis c'est aussi une vraie histoire, parce que c'est en trois phases, hein, oui, cette installation.
Voilà, c'est-à-dire qu'on commence, à partir du moment où on passe le perron et la porte d'entrée du château, on vient en fait découvrir, en levant légèrement la tête, en gardant un petit peu, montant son regard, on découvre deux corbeaux, qui sont ces éléments architecturaux en pierre, comme des petits piliers, quoi, sur lesquels vient se déposer plutôt deux formes. Donc du coup, on retrouve une poire coupée et une pomme coupée, dans lequel vient se greffer les pépins finalement du fruit, et comme si elle s'était assise, évanouie sur ce corbeau en fait, et qu'elle venait en fait se lever dans le minéral, dans la pierre, dans l'architecture. Puis ensuite, un deuxième temps, dès qu'on gravit les premières marches, où de part et d'autre, il y a ces niches, ces grandes alcôves qui font à peu près 2,30 m de haut. Et on y déploie deux grandes sculptures avec ces boutures tout en hauteur, tout en longueur, comme des grappes un petit peu de fruits, comme des éléments comme ça de sculpture à la fois contemporaine, je dirais, et en même temps qui peuvent se fondre avec l'élément pierre que compose en fait la niche et le château.
Et puis à la fin, dans une corbeille, on retrouve finalement dans une sorte de coupe ces fruits qu'on va venir déguster.
C'est ça, tout à fait.
Une sorte de boule de glace, si on veut.
si on veut, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fin, on continue un petit peu l'ascension pour arriver devant vraiment l'escalier d'honneur. Et en fait, l'escalier d'honneur, du coup, on a le balustre, et ce qu'on appelle le pied de balustre, sur lequel vient se poser en fait la torchère. Donc anciennement, en fait, sur cet escalier, il y avait une torchère. C'est une pièce en général en fonte sur lequel vient surplomber un globe lumineux en verre, en cristal. Et donc là, on est dans le même esprit, en fait, cette idée d'allumer un petit peu comme un phare, comme une lumière pour attirer les gens à venir gravir cet escalier.
Voilà, de travailler autour d'un alphabet botanique avec tout un langage qui reprend le végétal, le fruitier, une espèce de grénothèque, en fait.
Eh bien, merci beaucoup à vous deux.
Merci à vous.
Et en même temps, de découvrir vos œuvres, bien évidemment, on lève bien les yeux un peu partout, à droite, à gauche, pour découvrir les vitraux, cet escalier aussi majestueux. En fait, on déambule, on tourne autour de vos œuvres, et en même temps, on découvre ce château de la Roche-Guyon. Merci encore, hein, très bonne journée à vous deux.
Ben merci beaucoup, et très bonne journée.
Très bonne visite.
Je ne veux pas m'oublier. Je ne veux pas.
Pour finir cette petite visite au sein du château de la Roche-Guyon, nous sommes avec Yoshi dans son cabinet de curiosité. Bonjour Yoshi.
Bonjour.
Merci de nous accueillir ici. C'est un petit peu ton espace déjà depuis quelques mois. Et ça va rester en place jusqu'au 1er novembre.
Alors le cabinet sera présenté pour 3 ans.
Il y a des créatures assez particulières, quelques inventions, mais surtout des animaux que nous connaissons, comme des insectes, des grenouilles. Il y a aussi des oiseaux. Ouais. Il y a aussi une représentation de la célèbre fable de Jean de La Fontaine, le corbeau et le renard.
Oui, avec une boîte de camembert, parce qu'on n'est pas très loin de la Normandie ici.
Donc le corbeau est en hauteur et le renard est juste là. Et il est confectionné avec des matériaux recyclés comme la plupart des créatures qui sont exposées ici.
Tout à fait. Donc là, le renard est fait donc principalement de tissus. Donc on retrouve des vieux vêtements. Mais sinon, on retrouve des éléments métalliques comme des capsules de bière.
C'est ce que tu fais régulièrement tout au long de l'année. Ça a toujours été en quelque sorte un peu ton objectif de récupérer des objets du quotidien, de les recycler et de les mettre de nouveau en lumière.
Ouais, peut-être même un peu maladif peut-être, une habitude ou une obsession même de collecter et de garder dans une idée assez précieuse d'en faire quelque chose.
Ça vient d'où justement ça, déjà depuis plus jeune?
Ouais, depuis que je suis petit, une obsession à vouloir bricoler des choses avec les petits trucs. Et de faire autre sans avoir acheté les briques de Lego, qu'on peut construire des choses sans avoir à payer.
Là, c'est vraiment le début de tes différentes créations, parce que plus on avance, plus on va découvrir après des installations, j'ai envie de dire, spectaculaires, presque monumentales.
Ouais, tout à fait. Alors dans le cabinet, on retrouve donc de plus petites œuvres, donc quelque chose de plus intime et précieux. Et dans tout le parcours du château, il y a des axes qui sont disséminés qui vont aller dialoguer avec dans une porte entrouverte ou encore un pan de mur d'une façade et avec des œuvres donc à l'échelle des lieux.
Là, il y a une prise multiple, par exemple. C'est une de tes nombreuses prises multiples. On en a beaucoup à la maison. Ouais. Et tu t'es dit un jour, au lieu de les jeter, je peux en faire quelque chose. Et tu as tout de suite pensé, avec cette prise multiple, à l'animal, le rat ou pas?
Ouais, carrément. Alors donc là, c'est la forme de la prise donc qui suggère déjà cette tête-là. Mais après, c'est l'idée aussi de... Le courant, lui, circule entre les murs. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et comme les souris qui se cachent dans les murs. Et après, la souris électrique, on le retrouve dans un fameux personnage aussi de pop culture.
Donc, prise multiple. Et donc, tu as utilisé les prises pour en faire des têtes de rat et donc les installer sur cette prise multiple.
Voilà. Donc, on a le fil, le câble à l'intérieur qui est torsadé, donc qui forme ces petites moustaches. Et après, on a des petites punaises, du coup, qui font les yeux.
Tu aimes bien les souris, les rats en règle générale, les chats aussi ou... Pas forcément. Après, il y a des poules. Il y a un toucan qui tient dans son bec une souris.
Ouais, une souris verte même. Alors, je dirais les animaux... on retrouve beaucoup d'animaux communs, notamment pour les oiseaux. Donc, ce sont vraiment des oiseaux que je peux observer ou que j'ai déjà observés. Donc, c'est les oiseaux endémiques, du coup, de là où j'habite. Et après, donc, des animaux qui sont apparus un peu lors de mon parcours, on va dire, en fonction des expositions où j'ai eu, comme un basilic. Donc, celui-là est totalement imaginaire.
Eh bien, merci beaucoup. C'était Yoshi sur IDFM Radio. Nous étions sur le terrain, comme régulièrement sur votre radio valdoisienne, pour vous faire découvrir un petit peu les différents artistes de cette nouvelle exposition donc, qui s'appelle « La vie de château ». Et qui va durer un petit peu plus longtemps pour certains artistes. De toute façon, comme d'habitude, rendez-vous sur les réseaux sociaux, le site de la ville de La Roche-Guyon, ou encore le site du château de La Roche-Guyon. Merci encore, Yoshi. Merci. Et cette exposition, éventuellement, pourra la voir autre part sur le globe.
Alors, pour ici, donc, toutes les œuvres vont rester pour 3 ans, donc elles ne vont pas bouger pour le moment. Donc, profitez-en. Et pour la suite, oui, ils voyageront, bien sûr.
Merci encore, à bientôt.
À bientôt.
Et restez avec nous sur IDFM Radio.